L'ordonnance du 10 février 2016, qui réforme le droit des contrats, le droit des obligations, ne porte pas sur le droit des sociétés, mais comporte un certain nombre de dispositions qui ne vont pas rester sans influence sur cette branche du droit. Il s'agira ici d'évoquer la question particulière de la capacité des sociétés, question lourde d'enjeux, et qui va faire l'objet d'un certain nombre d'évolutions, si l'on en croit différents textes issus de la réforme, qui pourraient conduire à la remise en cause de certaines solutions bien acquises, relatives tant à la capacité de jouissance qu'à la capacité d'exercice des sociétés. S'agissant de la capacité de jouissance, l'aptitude d'une personne morale à devenir titulaire d'un droit, ce que l'on appelle leur capacité de jouissance, est classiquement limitée par le principe dit de spécialité, principe qui leur impose de limiter leur activité au domaine, c'est-à-dire à l'objet en vue duquel ces personnes morales ont été constituées. Or, les nouvelles règles issues de la réforme, et précisément celles qui sont relatives à la validité du contrat, comportent désormais un texte qui gouverne spécialement la capacité des personnes morales. Texte dont la lecture ne manque pas d'inquiéter ceux qui s'intéressent au fonctionnement des personnes morales en général et des sociétés en particulier. Ce texte, c'est l'article 1145, alinéa 2, qui nous dit que la capacité des personnes morales est limitée aux actes utiles à la réalisation de leur objet tel que défini par leur statut et aux actes qui sont accessoires dans le respect des règles applicables à chacune d'entre elles. Le rapport au président de la République nous apprend que cette règle a été introduite en vue de, je cite, « répondre aux demandes des milieux économiques ». La proposition est étonnante, car on ne voit pas très bien quels sont ces opérateurs économiques qui ont pu suggérer l'introduction de cette règle, malheureuse, nous semble-t-il, qui au contraire va à rebours de l'ambition affichée par ce même rapport au président de la République de renforcer la sécurité juridique. Cette règle est contestable. Elle est même dangereuse si l'on considère le risque qu'elle recèle pour la sécurité des transactions. Il est en effet particulièrement inquiétant d'imaginer que désormais, une société n'a pas la capacité juridique et qu'elle ne peut donc valablement contracter lorsque l'acte qu'elle envisage de passer n'est pas utile à la réalisation de son objet. Que faut-il comprendre de cette formule? S'il s'agit de prendre parti sur les conséquences du dépassement par une société de l'objet en vue duquel elle a été constituée. La règle est alors très classique, elle se borne à rappeler l'exigence de spécialité déjà évoquée, mais elle est alors inutile, car pour chaque forme de société, il existe déjà des règles précisant les conséquences du constat qu'un acte, passé pour le compte du groupement, se rattache ou non à son objet social. Ces règles varient selon que la société est à risque limité ou illimité, selon que l'on se trouve en présence d'un tiers de bonne ou de mauvaise foi. C'est ainsi que le gérant d'une société civile, le gérant d'une société en nom collectif ou en commandite n'engage pas la société s'il contracte en dehors de l'objet social, là où dans les autres formes de société, le groupement sera engagé par les actes de son dirigeant, y compris lorsque ceux-ci ne relèvent pas de l'objet social, sauf à établir ce qu'on appelle la mauvaise foi du tiers, c'est-à-dire sauf à établir que le tiers avait connaissance de ce dépassement de son habilitation par le gérant, par le dirigeant, ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances. Tout cela est bien connu et ne méritait pas d'être inscrit dans le Code civil. Ce qui est à craindre, c'est que la disposition nouvelle aille au-delà et que ce soit alors l'utilité de l'acte qu'il s'agisse d'évaluer. C'est alors que la règle se révélera dangereuse, car il en résultera que la validité d'un acte passé par une société dépendra de l'appréciation qu'un juge pourra un jour porter sur son utilité. Comme cette appréciation sera portée rétrospectivement, c'est toujours plus facile de réécrire l'histoire quand on connaît la chute et de venir dire si un acte s'est ou non révélé utile, et qu'elle sera portée par un juge à la légitimité incertaine pour porter une appréciation sur l'utilité des actes passés par une société, et comme de surcroît cette appréciation pourra déboucher sur une annulation, un anéantissement de l'acte, dès lors qu'il aura été vu comme inutile, alors les risques qui découlent de ce nouveau texte apparaissent élevés. Un tel risque d'intervention du juge dans la relation contractuelle est aussi important que préoccupant, et l'on peut craindre que ce texte ne permette en définitive à un tribunal de se poser en censeur des contrats passés par une société, en appréciant leur conformité à son intérêt social, ce qui ne paraît pas conforme à l'office traditionnel du juge en droit des sociétés. Alors on dira que la Cour de cassation s'est déjà engagée dans cette voie, lorsqu'elle a accepté que l'on annule certaines sûretés, un cautionnement par exemple, consenti par une société civile, contrairement à son intérêt social, et ce quand bien même un vote des associés unanimes aurait autorisé l'octroi d'une telle garantie. Mais précisément, on pouvait déjà être réservé à l'idée de voir le juge s'immiscer ainsi dans la relation contractuelle, au point d'annuler un engagement souscrit par une société avec l'accord de ses associés unanimes, et ce, au nom de l'idée que ce juge se faisait de l'intérêt social. Mais cette immixtion, aussi critiquable était-elle, demeurait circonscrite à la question de la validité d'une sûreté. Avec cette nouvelle disposition, on va bien au-delà, puisque ce sont tous les actes conclus par une société qui, demain, pourraient devoir passer sous la toise de cette appréciation judiciaire de l'utilité de l'acte. C'est préoccupant. S'agissant de la capacité d'exercice, maintenant, l'aptitude des personnes morales à faire valoir par elles-mêmes leurs droits, ce que l'on désigne cette fois comme leur capacité d'exercice, est nécessairement limitée par l'infirmité congénitale de ces sujets de droit que sont les personnes morales, qui n'ont pas, on le sait, d'existence physique, et qui leur impose d'être représentées par un dirigeant, par une personne physique, qui seule pourra agir en leur nom et pour leur compte. Il faut bien une bouche pour dire oui, une main pour signer le contrat, par exemple. C'est ainsi que les dispositions nouvelles qui gouvernent la représentation d'une partie, les articles 1153 et suivants, vont avoir vocation à s'appliquer à cette hypothèse de représentation inhérente aux sociétés. L'hésitation paraît d'autant moins permise à cet égard que l'article 1153 vise toutes les hypothèses de représentation, y compris celles qui sont d'origine légale. Dans ces conditions, il est tentant de considérer que les dirigeants de société, ceux qui représentent un groupement et qui agissent pour son compte, peuvent être concernés par ces dispositions nouvelles. Or, ces dispositions nouvelles sont à nouveau inquiétantes. Et on peut redouter qu'elles soient de nature à fragiliser les pouvoirs de ceux qui, que l'on s'était depuis maintenant plusieurs décennies, résolus à ne pas regarder comme des mandataires sociaux, mais plus comme des organes de la société qui ne tenaient pas tant leur pouvoir des statuts ou du contrat que de la loi. Ce serait à cet égard un retour en arrière que d'appliquer les dispositions relatives à la représentation à ces dirigeants de société. Très précisément, il serait préoccupant de poser en principe, comme le fait le nouvel article 1156, que l'acte accompli par un représentant sans pouvoir et au-delà de ses pouvoirs, est inopposable au représenté. Appliqué à une société, ce principe est inquiétant. Le dirigeant de société qui contracte en dehors de l'objet social ou qui contracte au mépris de clauses statutaires limitant sa liberté d'agir n'engagerait plus la société. La suite de cet article 1156 n'est pas plus rassurante lorsqu'il indique que le tiers contractant de bonne foi, au sens où cet tiers ignore que l'acte a été accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, ce tiers pourra en invoquer la nullité. Les dispositions des articles 157, de l'article 157 relatives au détournement de pouvoir par un représentant au préjudice du représenté ne sont pas plus rassurantes. Comme est préoccupant l'article 161, lorsqu'il prohibe par principe l'hypothèse du contrat avec soi-même. Vous savez, cette hypothèse dans laquelle une même personne occupe deux positions contractuelles, un représentant agissant par exemple pour le compte d'une société qui l'engage et pour son compte à lui, qui est co-contractant au contrat. Eh bien, cette hypothèse n'est pas regardée avec faveur par les dispositions nouvelles, puisqu'elle, un tel contrat avec soi-même se trouve frappé de nullité, un représentant ne pouvant agir pour le compte des deux parties au contrat, ni contracter pour son propre compte avec le représenté. Si l'on applique toutes ces dispositions aux sociétés et à ce représentant particulier qui est le gérant, qui est le président, qui est le directeur général d'une société, c'est toute une partie du régime de la représentation qui devra être reconsidérée, et ce, aux dépens de la sécurité juridique. Comment admettre, par exemple, que le moindre dépassement de pouvoir par un dirigeant social emporte l'inopposabilité de l'acte à la société, voire sa nullité, lorsque c'est un tiers qui invoquera le défaut de pouvoir? C'est pourtant ce que nous disent les nouvelles dispositions issues de l'ordonnance. Ce serait une réelle régression conduisant à abandonner un régime équilibré, qui pour apprécier les pouvoirs d'un dirigeant et les conséquences d'un dépassement de pouvoir, distingue selon les types de société, nous l'avons dit, et selon que le dépassement de pouvoir se traduit par une violation de l'objet social ou d'une simple clause limitative de pouvoir. On espère que ces textes seront regardés comme inapplicables à l'hypothèse de la représentation au sein des sociétés. L'article 1105 du Code civil pourrait permettre de neutraliser ces règles nouvelles relatives à la représentation. Cet article précise que, d'une manière générale, les textes du Code civil, qui posent des règles générales relatives aux contrats, ne s'appliquent que sous réserve des règles particulières à certains contrats qui sont établies dans les dispositions propres à chacun d'eux. Le droit spécial dérogeant alors au droit général, comme le veut une formule bien connue. Cette prévalence de la règle spéciale sur la règle générale ne suffira toutefois pas à régler toutes les difficultés. D'abord parce que dans bien des cas, le droit spécial est muet et qu'on ne pourra alors pas agiter cette règle de conflit, et que dans d'autres, il est insuffisamment précis et que le droit commun conservera alors une vocation à s'appliquer et à venir troubler les règles classiques du droit des sociétés. Voilà qui nous promet quelques beaux débats et la possibilité, la promesse de renouveler un certain nombre d'analyses et de réflexions dans une matière, le droit des sociétés, que certains regrettaient d'être devenu bien calme et bien terne depuis quelques années. Il n'est pas certain que ce calme dure encore bien longtemps, du moins si l'on considère ces dispositions nouvelles relatives à la représentation.